I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Et c'est peut-être ce qui peut créer chez moi aujourd'hui encore, parfois, une angoisse en me disant « Là, je ne montre pas les signes extérieurs de réussite, y compris dans l'épanouissement et un rapport détendu à l'argent. Donc, en gros, je n'ai pas réussi ma mutation d'adulte. »
On peut avoir fait Sciences Po, être surdiplômé et avoir des fins de mois difficiles. Vous en doutiez ? Ce n'est pas la seule dissonance d'Ophélie Latil. Cette activiste féministe, fondatrice du collectif Georgette Sand, se cogne régulièrement à des paradoxes. Avoir grandi pauvre dans une famille bourgeoise en est un. Revendiquer l'empowerment féminin par l'argent sans en gagner suffisamment elle-même en est un autre. Ophélie a tenu à témoigner ici du sentiment d'attirance-répulsion que l'argent lui provoque et de son engagement sociétal marqué par le manque. Ce témoignage est l'histoire d'un cheminement intense, réfléchi, singulier. Bonne écoute. Bonjour Ophélie, merci d'avoir accepté de témoigner pour Thune. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Oui, donc bonjour, j'appelle Ophélie Latil, j'ai 38 ans, j'habite à Paris, mais je viens de Provence. J'exerce comme juriste et formatrice sur les questions d'égalité et de prévention des discriminations, et j'ai monté le collectif Georgette Sand.
Ça te gêne en général de parler d'argent ?
Alors en fait, non, mais je dissocie deux choses. Le rapport à l'argent, quand j'en parle... d'un point de vue de l'égalité, du féminisme, des droits des femmes et des droits de l'insertion, quand la question de l'autonomie financière des gens en général, et le rapport à l'argent quand on parle de moi.
C'est plus compliqué.
C'est beaucoup plus compliqué.
On va déjà revenir un petit peu en arrière pour comprendre ton parcours. De quel milieu tu viens ?
Alors, je viens d'un milieu où on ne parle pas d'argent parce qu'on en a, normalement. Et le normalement est très important dans cette histoire. Parce qu'en réalité, ce qui paraissait évident sur le papier ne l'a pas été, à cause de cette problématique qu'on appelle aujourd'hui la question du déclassement social, c'est-à-dire que mes grands-parents étaient notaires, plutôt donc aisés, avec plein de propriétés privées, ils étaient très confortables financièrement, et ma mère, par contre, n'a pas forcément eu le meilleur mariage. Elle n'a pas épousé quelqu'un qui nous a aidés, c'est-à-dire qu'elle a épousé quelqu'un qui était en devenir, qui aurait dû devenir un... médecin, et puis en fait il est devenu médecin, mais en fait l'argent n'est jamais rentré dans la maison puisque il a consacré une énorme partie de ses revenus à l'alcool, sa grande passion. Et donc du coup c'est vrai que ça a eu un impact majeur en fait sur le rapport à l'argent.
Ah oui, donc une grosse problématique.
Oui, c'est un gros sujet. Je déteste me plaindre. Je déteste me placer, moi et ma famille, en fait, en victime. En fait, on a eu une belle vie et on continue d'avoir une belle vie. On est plutôt épanouis émotionnellement. Mais il y a quand même eu cette histoire. C'est-à-dire que on s'est retrouvé avec une mère qui s'est retrouvée avec un moment un mari qui aurait dû l'aider à trouver une sécurité financière. Elle avait 3 enfants, donc elle s'est mise en travail à temps partiel pour pouvoir gérer les 3 enfants qui étaient dans 3 écoles différentes. Et en fait, l'aide n'est jamais venue. Mais elle l'a espérée, parce que c'est quelqu'un qui est plein d'espoir, qui mise toujours en l'avenir. Elle a vraiment cru qu'il y a un moment, il y aurait un changement qui n'est jamais venu. Et en fait, ça a eu un... je pense que ça a irrigué notre éducation, notre rapport à l'argent, évidemment. Et puis après, ça a eu un impact sur le débouché qu'on pouvait ou pas avoir une fois le bac passé.
Mais concrètement, votre père vivait avec vous ?
Oui. Alors, nous, on a eu notre père chez nous jusqu'à mes 20 ans, dont 10 années extrêmement difficiles. Et ça a fini très, très mal et très violemment. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est qu'en fait, on a eu une éducation quand même bourgeoise, d'un côté, avec un truc, tous les acquis du monde bourgeois, donc des grandes bibliothèques chez nous, chez mes grands-parents ou chez moi. Quand on est dans un milieu bourgeois, l'argent, ça ne se montre pas. Ma grand-mère disait tout le temps, on ne parle pas d'argent, c'est vulgaire. Je refais un peu avec son accent, parce qu'elle était un peu bon chic, bon genre. Et elle disait toujours, on ne parle pas d'argent, c'est vulgaire. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est facile pour elle, vu qu'elle en avait plein, c'est facile de ne pas parler d'argent. Ma mère avait un peu ça à la bouche, parce qu'en fait, il fallait payer le bus scolaire, il fallait s'acheter des collants. Et du coup, on n'achetait pas de collants, parce qu'en fait, un truc très basique, hein, mais tu veux te mettre en jupe, il faut des collants, et les collants, ça coûte cher. Bah, du coup, tu te mets en pantalon, quoi. Moi, je voulais, comme toutes mes copines, avoir ces horribles survêtements avec des boutons pression sur le côté. Là, dans les années 90, ça se faisait beaucoup. Et notre mère, elle nous disait, bah non, les enfants, ça, c'est moche déjà. Hein, éduquez-vous à l'esthétique un petit peu, là. Et puis aussi, ce sont des vêtements qui sont fabriqués dans des pays lointains par des enfants qui ont votre âge et qui ne vont pas à l'école. Et donc, on ne va pas cautionner ce système-là. Donc, derrière le manque d'argent, des fois, elle se cachait derrière l'éthique. Et donc, c'est pas plus mal, parce qu'au final, elle nous a éduqués politiquement. Et on n'était donc pas avec les meilleures marques et pas avec les meilleures fringues. Et en même temps, notre mère, elle nous disait tout le temps, mais c'est ça qui constitue votre force, les enfants. C'est qu'en fait, il y a un moment, si dès que vous demandez des vêtements, on vous les donne, si dès que vous demandez quelque chose, vous l'avez, au final, vous êtes pas habitué, en fait, à attendre. Il faut savoir travailler pour avoir les choses, et puis il faut savoir choisir avec soin ce dont on a besoin. Et quand on veut se faire plaisir, quand on veut des envies, il faut qu'elles soient rares, sinon après, on se lasse et au final, je lui donnerai un peu raison. Je pense que elle nous a éduqués à aussi, ne pas être trop préoccupé par le regard de l'autre. Toujours est-il qu'on était dans cette dissonance cognitive où on n'avait pas beaucoup d'argent. On était dans un village où tout le monde connaissait mes grands-parents. Ma grand-mère prenait un peu de grands airs. Mon grand-père était toujours en costard trois pièces avec son EPAP, ce qui est dans un village provençal au bord d'un étang de Berre où tout le monde est ouvrier, plutôt communiste et maintenant plutôt Front National. Clairement, la greffe, elle était particulière. Et du coup, nous, forcément, enfants et petits-enfants, on avait tous forcément la réputation d'être aussi très riche et de cacher, en fait. Et ma mère, elle cachait son argent parce qu'elle avait une deux chevaux et que on n'avait pas les fringues de marque. Et en fait, notre mère nous disait tout le temps, mais les enfants, en fait, ce qui compte, c'est pas les marques. Regardez, nous, on a pu acheter une maison. Non, on avait acheté un terrain à 5 km du village, au milieu de nulle part, au milieu des terres agricoles, et qui était une maison qui peinait pas de mine. Et puis ma mère, ça fait 30 ans qu'elle plante des arbres dans cet endroit-là, qu'elle en a fait un endroit magnifique et merveilleux. Et elle nous disait, bah voilà, vous voyez, vos amis, ils partent en week-end à Disneyland, ils achètent des grosses fringues, mais nous, on a un jardin. Et ça, c'est plus important, en fait, d'avoir un jardin et de planter des arbres. Donc voilà, elle était un peu écolo, beaucoup féministe. Et c'est vrai que c'était une éducation aussi à plus de sérénité dans notre rapport à l'argent. Sauf qu'elle-même, évidemment, elle n'était pas sereine, parce qu'elle aurait voulu, par exemple, nous offrir des cours de musique, elle aurait voulu plus, et elle le cachait. Mais on voyait bien, en fait, qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du non-dit, mais qui était une souffrance pour elle, à chaque fois qu'elle ne pouvait pas nous acheter des choses. Plus j'arrivais dans la vie d'adulte, et plus, en fait, ça commençait à dégénérer chez nous, c'est que de plus en plus, elle se rendait compte qu'on allait arriver à l'université. Moi, je voulais faire Sciences Po. Voilà, mon père disait que j'avais la folie des grandeurs. Et en fait, je sentais qu'elle se disait, mais comment on va faire ? Et je sentais cette frustration à l'idée qu'elle se disait, mais en fait, les choix de mes enfants vont être sans doute dominés par la question financière. Donc, elle nous disait tout le temps en permanence, ne vous inquiétez pas, les enfants, tout va bien se passer. Et nous, on voyait bien que tout n'allait pas bien se passer. Mais en fait, concrètement, on n'allait pas à la cantine parce qu'en fait, 5 euros par jour, c'était trop cher, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc où tu te dis, ben voilà, ces enfants, ils sont tous très chics, ils sont très bons à l'école, ils envoient tous les codes extérieurs de la bonne petite famille avec la mère éclair de notaire et le père médecin. Et en fait, en réalité, si on mangeait pas à la cantine, c'est qu'on n'avait pas les moyens. Je pense que moi, ça a eu un impact parce que au final, déjà, comme ma mère, elle voulait absolument nous aider et qu'elle pouvait pas toujours le faire, déjà, on cachait un peu nos envies et nos besoins. Et puis évidemment, on avait notre père qui était là et qui nous disait que ce qu'on faisait, c'était nul et qu'on s'en sortirait jamais et qui était dans une sorte de trucs, de spirale noire où il essayait de tous nous emmener. Et concrètement, ça a eu un impact, je pense, sur mon rapport à l'argent, parce que, notamment quand j'ai commencé à travailler, vraiment les premiers jobs étudiants, enfin lycéennes, où on garde des enfants, on fait les cueillettes, on fait les vendanges, on cueille les olives, les abricots. En fait, mon premier salaire, mon père me l'a piqué quand même. Il a été quand même sacrément ça a sacrément salaud sur ce coup-là, c'est-à-dire qu'il est allé le chercher. Donc, à la ferme où j'avais travaillé pendant plusieurs semaines, il est allé le chercher et il est allé directement le renvoyer dans le monde agricole, puisqu'il est allé à la coopérative du village s'acheter des cubines rosées avec.
T'avais quel âge ?
J'avais 16, 17 ans. C'était mon premier gros salaire où j'avais travaillé plusieurs semaines d'affilée. Et en fait, je vais le voir et je lui dis, mais en fait, tu ne peux pas. J'appelle la coopérative qui me dit, on peut pas rembourser. Et je vais le voir en disant, mais tu te rends compte que tu m'as pris, pour moi, c'était l'argent que j'avais mis de côté pour mes études, notamment pour passer les concours de Sciences Po, parce que ça coûte cher, en fait, un concours pour Sciences Po. En moyenne, c'est 100 euros à l'époque. Évidemment, il ne l'a pas bu, hein. Donc, j'ai vidé l'intégralité de ses cubis dans le jardin, en disant, au moins, voilà. Mais en fait, c'est ce rapport aussi au fait qu'il y a des gens qui insultent mon avenir et qui me privent, en fait, des moyens que je me donne pour essayer de m'en sortir. Je pense que ça a eu un impact. Et puis, évidemment, si je dois faire de la psychologie, je pense que la personne qui est censée t'aider à te financer tes études et à t'aider dans la vie, évidemment, qui te dit « Ah ben en fait, je vais transformer en rosé ton concours d'entrée à Sciences Po », c'est quand même compliqué. Mais dans ma malchance, j'avais ma mère qui a trouvé l'argent pour passer le concours. Et donc du coup, je suis quand même arrivée à Sciences Po. C'était déjà hyper important d'arriver là, quoi.
Ok.
Là, pareil, en fait, on arrive à Aix et ma mère continuait d'espérer que notre père allait nous aider à financer nos études, puis ça marchait pas. Il nous donnait pas l'argent, il disait qu'il l'avait donné, nous n'osait pas trop dire qu'on avait parti d'argent pour le mois pour acheter à manger, tout ça. Donc, on faisait hyper gaffe. Le problème qu'on avait, qui n'était pas un problème, en fait, c'est que donc, pourquoi Aix c'était plus simple pour moi pour mes études, c'est que mes grands-parents, ils avaient un appartement là-bas. Et un appartement dans le centre-ville, on était en colocation à plusieurs, et donc je payais un loyer qui était beaucoup plus bas que celui que j'aurais dû avoir dans n'importe quelle autre ville de France. Donc ça allait, mais en fait pareil, là aussi la dissonance continue, c'est-à-dire que les gens me voyant dans cet appartement-là, dont je dis qu'il a mes grands-parents, se disent « Ok, elle paye pas d'argent, ses grands-parents sont riches, donc elle est riche ». Et donc du coup, il y a une sorte d'endogamie sociale quand même dans les gens qui sont dans les IEP ou les facs de droit, où les gens quand même ont un peu les moyens. Et moi, je me rappelle, du coup, j'étais souvent en difficulté parce que tu vas au restaurant, tu prends pas d'alcool, tu prends la petite salade verte et puis à la fin, tout le monde me partage et tu te retrouves avec 40 euros que tu n'as pas. Tu les as pas et en fait, c'est ta bouffe pour un mois et tu sais pas quoi faire et du coup, tu refuses en fait de sortir. Puis à Sciences Po, c'est quand même très, très snob. Tout le monde achète les livres. Moi, j'avais besoin d'aller à la bibliothèque pour consulter les livres parce que j'avais pas les moyens d'acheter tous les livres qui sortaient et qu'on nous demandait de lire. On se prend souvent l'humiliation de pas avoir d'argent, de pas avoir des vestes en cuir, de pas avoir le dernier téléphone, de pas pouvoir partir en week-end. Tout le monde est vraiment dans ce truc où l'argent est une chose normale et naturelle. Et moi, j'étais vraiment toujours dans ce truc. J'avais vraiment intériorisé ce truc de ma mère, qui était de on cache le fait qu'on n'a pas d'argent parce que c'est honteux. C'est un rapport compliqué. Et en fait, si tu veux être bien dans ta vie, faut jamais parler d'argent, faut jamais parler chiffres. Moi, j'ai fait plusieurs prêts pour aller en Russie. Donc pour faire mon stage en Russie en troisième année à Sciences Po, où ça a été compliqué. À l'époque, les stages n'étaient pas du tout rémunérés. Et donc, non seulement j'ai été victime de harcèlement là-bas, mais en plus, j'ai été endettée. Et c'est ce qui fait aussi qu'à la fin de mes études, donc après Sciences Po, j'ai fait des masters universitaires. Je n'avais pas les moyens de faire plus. Et en fait, oui, quand je me suis retrouvée jeune diplômée, j'ai commencé à bosser un an, je m'en suis pas si mal sortie. Et je me suis retrouvée en pleine crise des subprimes, là, en 2008, jeune diplômée et seule au monde, en fait, après avoir bossé pendant toutes mes études, le soir, le week-end, les vacances, du jour au lendemain, inactivité du jour au lendemain. Et donc, ce désœuvrement m'a vraiment angoissée. Je voyais pas les rentrées d'argent. Même les jobs, en fait, c'était compliqué à trouver. On me raccrochait au nez, on me proposait que des stages, alors que 2 mois avant, on me proposait la même chose, mais de façon rémunérée. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Génération Précaire, qui travaillait sur les droits des stagiaires, et qui avait vraiment au cœur une obsession, qui était la mienne, c'était l'autonomie. Qu'est-ce qui se passe, en fait, à un moment, quand on n'a pas les moyens, quand on travaille à plein temps, mais que, en fait, ce travail à plein temps ne nous permet pas d'être autonome financièrement, alors qu'on est adulte, qu'on a le droit de voter, de conduire une voiture, on n'a pas les moyens de se loger, de manger, en fait, à sa faim, alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Et en fait, ce qui rassemblait toutes ces personnes à Génération Précaire, pour beaucoup, c'est qu'ils étaient endettés pour faire ces études-là. Alors évidemment, par rapport aux États-Unis, vous allez me dire, ça va, où est-ce qu'on chouine, parce qu'en fait, voilà, on n'a pas 200 000 euros à sortir. Mais le problème, c'est que le premier emploi, l'emploi durable, en fait, en moyenne, c'était 28 ans à l'époque. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait entre le moment où on sort diplômé de ses études, à 18 ans ou 22, 23 ans quand on sort de master, et le moment où à 28 ans, on a en moyenne un premier emploi durable? Et ben en fait, on enchaîne les CDD, les intérims. Et ça, on peut le faire uniquement si on a les parents. Et en fait, c'est fou. C'est parce que là, je me retrouve à la fin des années 2000 en me disant, mais en fait, c'est quand même fou, la réussite, en fait, ça s'hérite ou ça s'épouse. Et en fait, tu peux pas acquérir en fait l'indépendance financière tout seul, comme un grand.
Ce que je comprends, c'est que l'argent est quand même une question centrale, voire une des bases de ton cheminement, de ton engagement,
oui.
De ton activisme. Alors, au début, contre la précarité, ensuite, pour le féminisme.
Oui, parce qu'il y a une question, en fait. Je pense que l'argent, pour moi, il y a un rapport vraiment très clair à la justice. La justice, c'est quelque chose d'important pour tout le monde, la justice sociale, particulièrement en France. Mais moi, en fait, je pense que derrière, il y avait cette idée, c'est injuste. Je me suis beaucoup battue pour travailler, pour avoir de l'argent, pour avoir des bonnes études. On a vécu des choses pas simples dans notre en France et notre adolescence. Et au final, l'argent est une question fondamentale. Moi, je suis obligée, en fait, à chaque fois de ramener, je suis navrée, au collectif. Là, au collectif familial, parce qu'en fait, je pense que c'est aussi le rapport qu'on a à sa famille qui impacte notre rapport à l'argent. Et moi, j'ai envie aussi d'être indépendante financièrement. Dans mon rapport à ma famille, j'ai envie de leur dire, les gars, je m'en sors bien, vous inquiétez pas. Et ce qui a été un questionnement il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui peut créer chez moi aujourd'hui encore, parfois, une angoisse en me disant, là, je montre pas les signes extérieurs de réussite, y compris dans l'épanouissement et un rapport détendu à l'argent. Donc, en gros, j'ai pas réussi ma mutation d'adulte.
On va y revenir. Je voudrais que tu me parles de ta situation actuelle. Comment vis-tu? Avec qui? Qu'est-ce que tu fais? Où habites-tu?
Paris, j'habite à côté de Père-Lachaise, avec mon chat, qui ne m'aide pas à payer le loyer et qui profite de beaucoup trop d'endroits dans la maison. Donc j'habite un appartement de 39 mètres carrés pour lequel je paye beaucoup trop d'argent. Donc du coup, j'ai créé Georgette Sand avec l'idée qu'on ne devait plus s'appeler Georges pour être prise au sérieux, puisque Georges Sand, donc, qui s'appelait Aurore Dupin, a pris un pseudonyme masculin pour être prise au sérieux, pour être publiée et notamment pour s'émanciper financièrement. Et au final, Georges Sand, elle disait, mais voilà, mais moi, en me mariant, j'ai donné en fait ma fortune à mon mari et j'ai pas le droit d'utiliser mon argent. Et donc pour m'émanciper, j'ai dû passer pour un homme, me faire passer pour un homme dans un premier temps. Et en fait, au XXIe siècle, vous avez Rowling qui a écrit Harry Potter, qui a dû cacher aussi que c'était une femme. Son agent littéraire lui a dit les petits garçons n'achèteront pas, enfin les parents des petits garçons n'achèteront pas un livre écrit par une femme. Donc il faut que tu caches le Johan en J.K. Et donc c'est vraiment la question de est-ce qu'on peut s'émanciper financièrement si on est une femme?
Vous êtes combien?
Enfin, on n'est pas nombreuses, on est, je sais pas, 20, je pense, 15-20. Des fois, on est 50, mais en ce moment, on est en sortie de confinement. Donc, on n'est pas très nombreuses, mais je pense que ce qui nous a toutes rassemblées, c'est un rapport justement à l'économie, parce que la question de l'argent et les femmes, souvent, ça ne va pas ensemble, alors que pourtant, c'est ce qui irrigue les droits des femmes. On nous dit souvent que les droits des femmes, ça date d'il n'y a pas longtemps, notamment économique, mais la première femme qui a négocié ses droits d'autrice, c'était Christine de Pizan au XVe siècle. Et en fait, les femmes ont toujours eu en fait, un rapport à l'argent, elles savaient que leur indépendance, elle passait par l'argent. Et moi, je sais que c'est pour moi fondamental que les femmes puissent être émancipées financièrement, parce qu'en fait, si tu es chez toi avec un conjoint violent, tes deux gosses, tu peux pas partir de chez toi parce que tu te dis, ben moi je travaille pas, c'est lui qui gagne le plus d'argent. Et donc tant que les femmes n'auront pas accès à des salaires élevés et n'arriveront pas à se faire proposer ces salaires ou à les négocier, elles seront toujours beaucoup plus victimes que les autres de violences.
On va revenir un petit peu sur toi. Aujourd'hui, combien est-ce que tu gagnes et tu penses appartenir à quelle catégorie?
Non, c'est compliqué parce qu'en ce moment, par exemple, là, le mois dernier, j'ai rien gagné. Le mois d'avant, j'ai gagné 2000 euros. Le mois d'avant, j'ai rien gagné non plus. C'est compliqué. Là, j'ai monté ma boîte en fait fin 2019. C'était pas la meilleure idée. J'avais encore un peu de chômage, donc j'ai pu survivre les premiers mois et survivre au confinement, mais c'était très difficile. Derrière, j'ai pris un temps partiel de juriste pendant le deuxième, notamment confinement, qui m'a permis d'avoir le matelas du loyer, parce que donc je paye 1100 euros de loyer, donc c'est pas rien. Donc en fait, pour l'instant, je ne suis pas dans un rythme de croisière dans la création de mon activité. J'ai des projections, je me suis fait des jolies projections sur tableau Excel en misant des taux de progression absolument inconscients. C'est-à-dire que moi, je pense que quand j'ai monté ma boîte, j'étais soit très courageuse, soit très inconsciente, soit un gros mélange des deux. J'étais persuadée qu'en 6 mois, j'aurais les moyens d'avoir des locaux, qu'au bout de 12 mois, j'aurais des salariés. Et au final, bon, je ne m'attendais pas à une pandémie mondiale, hein, évidemment. Et c'est ce qui fait en fait qu'aujourd'hui, je vis un peu au-dessus de mes moyens dans le fait que j'ai un appartement un peu cher, compte tenu du fait que je suis indépendante financièrement. Je suis indépendante parce que j'ai pas d'autres revenus qui arrivent. Et du coup, c'est pas grave. En fait, j'assume que je suis très bien en fait dans le centre de Paris. Et c'est quelque chose pour lequel aussi j'ai fait des études. Moi, j'ai fait des études pour m'en sortir.
Bah c'est ça, c'est que t'as quand même un bac plus
5, ouais.
Plus 5, ouais. T'as fait des super études, Sciences Po, c'est pas rien.
Bah c'est ça, en fait, j'ai fait des super études et c'est pas pour rien. Alors oui, tout à l'heure, je disais, il y a un côté un peu revanchard. J'ai aussi voulu faire des études pour montrer que j'en étais capable à des gens qui estimaient que je ne l'étais pas. Et après, j'ai voulu travailler et aller à Paris quand ma famille m'a dit à un moment, écoute, ma fille, c'est bien de faire des études quand on est une femme pour avoir de la conversation hein, dans les dîners. Mais concrètement, est-ce que tu es obligée vraiment de vivre de ton travail intellectuel quand tu pourrais tout simplement te marier avec un gentil jeune homme, et moi j'étais là, non, l'indépendance c'est important. Et du coup, pour moi, la question aussi c'est aussi la question du couple. Est-ce qu'à un moment on se met en couple parce qu'on est amoureux, parce que c'est génial, ou est-ce qu'on se met en couple à un moment parce qu'il faut partager le loyer? Et moi j'ai dit, mais il est hors de question que je renonce à mon indépendance parce que, en fait, il faut payer la moitié d'un loyer et pas un loyer entier. Ma sérénité, c'est aussi le fait que je suis sociable, mais que je suis indépendante financièrement, et j'y tiens. Et c'est sûr que ça a été un peu bousculé pendant le confinement, parce que là, on se retrouve seul face à soi-même, on vient de créer son activité, on se dit que ça va marcher. Et là, la problématique du déclassement vous prend encore dans la figure. C'est-à-dire que avec le confinement, on voit pas les gens, donc on les voit sur Internet, et là, on commence à se comparer. Et j'ai découvert, moi, un truc que j'avais pas avant, c'est je me compare. Je vois les gens qui ont réussi à lever de l'argent pour leur boîte, alors que moi, j'ai pas réussi. Je vois les gens qui sont en train d'acheter des maisons, qui sont en train de faire des gosses. Bon, encore ça, c'est un sous-sujet, mais en fait, qui n'est pas si anodin. C'est-à-dire que moi, j'arrive là, en confinement, j'ai 36 ans quand je rentre, et je sors de 2 années de confinement, où j'arrive près de la quarantaine, et je me dis, mais moi, du coup, je vais pas avoir d'enfants, et du coup, en fait, moi, je vivote un peu, et puis, du coup, je pourrais jamais accéder à la propriété. J'aurais jamais, en fait, cet argent qu'ont mis mes copains de côté quand ils se sont mis à deux, qu'ils ont tous lâché 500 balles par mois de loyer, quand moi, j'en lâchais 1300.
Mais il n'y a pas que le fait de se mettre à deux, c'est aussi ton choix de carrière, c'est-à-dire que t'as pas choisi, t'aurais pu rentrer de façon plus basique dans une banque, dans une entreprise.
Oui. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis un peu responsable de mon déclassement aussi. J'ai commencé à avoir un peu, pas des regrets, mais un peu des remords en train de dire, mais quand même, peut-être que j'aurais dû être plus raisonnable, travailler dans une banque et dans une boîte de conseil nulle pendant 15 ans. Et en fait, voilà, ces idées-là m'ont traversée quand j'étais seule chez moi pendant le confinement. J'avais le pied cassé, j'avais une invasion de souris. Donc évidemment, là, j'avais tous les alignements cosmiques de choses qui faisaient que je déprimais un peu. Et puis au final, je crois qu'il faut que j'assume le fait que mes choix de vie me correspondaient et qu'en fait, ils ont correspondu à une recherche sans doute effrénée de mon propre épanouissement.
Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu paradoxal à te battre pour la rémunération des femmes et en même temps à avouer que tu as longtemps travaillé gratuitement et que même maintenant, ce n'est pas encore évident ?
Oui, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, donc les cordonnières aussi. Au final, moi, je me suis battue pour l'émancipation des femmes. J'ai défendu un nombre incalculable de projets aux affaires sociales au Parlement européen, en commission des lois à l'Assemblée, au Sénat. J'ai fait passer plein d'amendements depuis des années sur l'argent, l'économie des femmes, l'économie des plus jeunes. Et au final, oui, moi, j'ai eu du mal, en fait, à me vendre. Parce qu'en fait, je partais du principe que mon bilan politique, il parlait pour moi, et que les gens viendraient me chercher, sauf qu'en réalité, on vit quand même dans un monde capitaliste, et c'est pas parce que tu fais des trucs super que les gens vont venir te chercher. Ils te trouvent génial, mais pour autant, ils préfèrent quand même que ton expertise, elle est gratuite. J'ai fait un nombre incalculable de choses pro bono quand j'ai monté là ma boîte de formation. On m'a demandé de faire des ateliers. Je me rappelle, là, j'ai une énorme association sur l'entrepreneuriat féminin qui s'est créée, qui est financée par des banques, qui me demande de venir faire un atelier. Je demande combien c'est payé. Elle me dit, mais non, mais ce sera payé en visibilité. Surtout que pour une asso qui bosse sur l'entrepreneuriat féminin, je rigole bien. Et je leur dis, écoutez, si vous voulez, je vous mets bout à bout les 2 prêts que j'ai fait pour faire mes études. Et puis, en fait, le coût de tous les livres que j'ai lus. Et puis, en fait, bout à bout, sur 10 ou 15 ans, je pense que là, on arrive à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, à un moment, c'est ça que ça coûte, une heure d'atelier, en fait, avec moi. Et donc, je suis très sûre de moi, sur le fait que moi, je viens pas dans ces conditions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué parce que je dois apprendre moi-même, adulte, à souvent me battre pour moi alors que vociférer pour les autres, ça n'a jamais été un problème.
Donc ça, c'est relativement nouveau pour toi.
J'ai toujours essayé de négocier. Je fais partie des 7% de femmes qui négocient leur premier salaire. Et au final, j'ai toujours essayé de négocier. Et des fois, en fait, je me suis rendu compte que j'ai négocié. On m'a toujours dit oui, parce que même quand même, j'avais tendance à négocier plus bas que ce que j'aurais dû. Moi, je me suis retrouvée des fois avec des copains dans une boîte. Et puis, je me rendais compte qu'ils avaient demandé 10 000 de plus et qu'ils les avaient eus. Donc, en fait, j'aurais dû demander 10 000 de plus. Donc, moi, c'est d'ailleurs un des conseils que je donne souvent dans mes ateliers sur la négociation. Je leur dis, voilà, vous identifiez combien vous voulez demander et vous rajoutez 10 000 euros. Et en fait, à Paris, ça marche vachement.
Parce annuel.
Annuel, ouais, ouais. C'est-à-dire que souvent, les femmes, elles demandent, voilà, j'ai demandé 20 000 euros, voilà, tu fais, bah, ok, tu penses que tu vaux 20 000 euros, moi, je te dis, tu rajoutes 10. Tu demandes 30. Et en fait, le problème, c'est que les femmes sont persuadées, comme on a été élevées différemment des hommes, qu'on n'a pas le même sort sur le marché du travail. Les femmes, en fait, ont très peur de déplaire. À la fois, elles veulent pleurer et elles ont peur de déplaire. Ce qui fait qu'elles se disent, et moi, je l'entends très souvent dans les ateliers que j'anime, oui, mais si je demande trop, les gens ne vont plus m'aimer. Il y a vraiment ça, un rapport à l'amour qui est en fait lié à un rapport à l'argent. Et vraiment, je me dis, on est vraiment au cœur du problème. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes ont l'impression que si elles parlent d'argent, on va arrêter les aimer.
Donc là, du coup, j'imagine que tu es plutôt économe.
Oui, oui et non, en fait. Moi, je ne suis pas en capacité de faire des gros achats, déjà parce que je n'ai pas beaucoup de moyens. Mais je ne sais pas, par exemple, prendre de l'argent à la banque pour investir, par exemple même dans ma boîte, pour y vraiment investir dans des locaux, des salariés, c'est quelque chose qui ne m'est même pas venu à l'esprit, parce que on ne s'endette pas. C'est quelque chose qui ne se fait pas. On vit à hauteur de ses moyens. Mais en même temps, de temps en temps, il faut se rappeler aussi que le plaisir, il existe. Et le plaisir, des fois, il réside dans un acte d'achat. Alors pas forcément élevé, mais il peut résider là-dedans. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que souvent, on culpabilise les gens qui dépensent leur argent, leur disant, vous vous rendez compte, la terre est en train de crever, vous êtes là, tous en train de consommer comme des idiots. Faut rappeler que c'est quand même une pulsion de vie. Il y a des tas de choses dans les pulsions de vie, il y a les drogues, il y a la nourriture, il y a le sport, il y a plein de choses. Et il y a quelque chose dont on ne parle pas assez. On parle souvent de la compulsion à l'achat des gens qui vont pas bien, en disant, par exemple, d'une personne qui est dépressive, si elle se met à acheter du jour au lendemain plein de choses, notamment des grosses sommes, une nouvelle cuisine, une voiture, il faut s'inquiéter, ça veut dire, voilà. Mais je pense qu'il y a ce petit état des gens qui vont plutôt bien, qui vont moyennement mal, on va dire, qui, à un moment, font ça et ça leur fait du bien. Moi, je me sais que des fois, j'ai acheté, je suis allée faire des soldes avec ma sœur, par exemple, et puis on achète plein de trucs, et puis on se dit à la fin, ah, ça fait du bien. Parce qu'on libère des hormones, qui sont des hormones de satisfaction, où à un moment, oui, en fait, on se sent plus heureux quand on achète. C'est Elizabeth Taylor qui disait, c'est pas le fait d'avoir, c'est le fait d'obtenir. Et en fait, c'est ce temps qu'on passe à chiner. Voilà, moi, je chine beaucoup. J'aime bien les brocantes. J'aime bien, je vais chiner sur Vinted la paire de chaussures qui est assortie à ma ceinture. Et en fait, je trouve en fait du plaisir en fait à ce temps perdu, à non pas à lire, à m'éduquer, à faire du sport, parce que j'ai besoin aussi de créer un environnement chez moi qui est beau. Donc moi, mon appartement, il est meublé avec que des choses de seconde main ou que j'ai peintes moi-même et que j'ai fait, parce qu'il faut créer un espace chez soi où on est en sécurité. La question de la sécurité, c'est important pour moi. Et où on est bien. C'est un endroit qui vous correspond. On rentre chez soi. Et puis les autres rentrent chez vous et disent, ah ok, cet endroit te ressemble en fait. Et moi, je pense qu'il y a un travail aussi sur la création d'une identité à travers l'endroit où j'habite. Et puis il y a aussi un truc par rapport à l'habillement, le rapport au corps. En fait, notre corps, en fait, on l'utilise en permanence et on dit tout le temps, mais oui, il ne faut pas se soucier de son corps, notamment quand on est féministe, on nous dit, mais oui, il faut se libérer du corps, des standards corporels, il faut se moquer de à quoi on ressemble. Et au final, moi, je ne suis pas d'accord. En fait, mon corps, c'est un objet précieux. Mon corps, j'en prends soin parce que je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'aïkido, je vais courir, j'essaie de manger sainement et j'essaie aussi en fait de le draper. Je l'enrubane en fait de vêtements qui me plaisent. Et donc du coup pour ça il me faut de l'argent et donc cet argent il est nécessaire. Donc j'achète pas des fringues de luxe, j'achète vraiment souvent de seconde main. Mais je suis consciente que c'est quand même qu'il y a un rapport en fait au corps et à l'argent qui est encore en questionnement. Il y a un tabou autour de ça, c'est-à-dire que pour me sentir bien, j'ai quand même du coup besoin de l'argent. L'argent pas comme bien, qui dormirait comme un tas d'or sur mon compte, mais en fait, il y en a un moment, j'en ai besoin pour mon épanouissement. J'en ai besoin pour partir en train à droite à gauche, me balader, j'en ai besoin pour mes stages d'aïkido, j'en ai besoin notamment pour m'acheter des vêtements dans lesquels je me sens bien.
Avec combien est-ce que tu serais satisfaite par mois ?
Vu que j'en ai pour donc charges comprises, j'en ai pour 1 600 € à Paris. Donc si on rajoute, mettons, voilà, la nourriture, les frais de santé, et mettre un petit peu de côté quand même pour se rassurer, moi je dirais que je serais bien à 3 000 €. Je l'ai déjà été et je peux vous dire que j'ai trouvé ça extrêmement épanouissant. Hein, parce que ce n'était plus un sujet. Je ne pensais pas à l'argent. J'étais pas en train de compter, j'étais pas en train de faire mes comptes, j'étais pas en train de me dire bon ben voilà, je suis allée boire un verre là lundi soir, donc du coup je pars pas en week-end. Ça a apporté de la sérénité. Je crois que je pourrais pas être malheureuse sur Terre, donc je cherche en permanence ce qui me rend la plus heureuse. Et si ça ne passe pas par l'embourgeoisement, la propriété privée ou le fait de gagner beaucoup d'argent, et ben on ne passe pas par là. Si ça passe par le fait d'écrire un livre ou de créer un collectif qui ramène pas de thunes mais qui rapporte de l'épanouissement du collectif et de la, des bons sentiments, j'ai envie de dire. En fait, déjà, j'ai gagné mon temps sur Terre. Après, évidemment, moi, je suis d'un naturel un peu angoissé sur les questions financières parce que j'ai manqué. Et clairement, il y a un moment, j'ai vraiment manqué. C'est-à-dire que moi, à la fin de mon dernier stage à Paris, je mangeais pas tous les jours parce qu'on m'avait promis des gratifications de stage qui ne sont jamais venues. Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé ça en effet en engagement militant sur plusieurs années qui ont fait que j'ai obligé maintenant les entreprises à gratifier les stagiaires. Et donc oui, en fait, j'ai gagné. J'ai gagné pour les autres et j'ai pas gagné pour moi. Mais au final, c'est quoi la satisfaction? Gagner 200 balles de plus par mois et ou me dire j'ai mis en place le droit des stagiaires en France et il y a des millions de personnes chaque année que ça impacte. Des étudiants et leurs parents qui, en fait, ont moins à s'endetter pour leurs enfants.
Ce serait pas mal de concilier les deux.
Ce serait pas mal de concilier les deux, mais si je dois choisir là, maintenant, tout de suite, le matin, quand je me regarde dans la glace, est-ce que j'ai réussi ma vie? Oui, j'ai réussi ma vie.
Et avec les mecs, donc?
Moi, je sais que je suis sortie avec des hommes très riches, mais c'était très compliqué pour moi, par exemple, parce que je me rendais compte qu'ils me faisaient des cadeaux très chers. Moi, j'avais pas les moyens de me faire des cadeaux très chers. Et je leur disais surtout, écoutez, les gars, moi, je dis tout le temps que j'ai pas d'argent, que j'aime pas les marques. On m'achetait tout le temps des sacs de marques, des stylos avec des pierres précieuses dessus.
Et à un moment, on t'a acheté des stylos Mont Blanc.
On m'a offert des Mont Blanc avec une émeraude parce que j'aime le vert. Ouais. Et en fait, je me retrouve avec un stylo Mont Blanc. Et je leur dis, mais écoutez, les gars, j'ai pas d'argent. Je vais pas me trimballer avec un stylo Mont Blanc. En fait, qu'est-ce que j'en fais? En fait, donc voilà, moi, j'ai eu un rapport à l'argent conflictuel qui a pu créer des vraies dissonances. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai senti avec des hommes trop riches que ça pouvait en fait chez moi induire une forme de faiblesse, de paresse. Je me suis dit, mais en fait, si je sors avec un mec trop riche, il va se passer quoi? Il va se passer que je vais peut-être faire comme beaucoup de femmes, je vais un peu m'endormir dans ce truc, me contenter en fait de vivre avec lui et donc de bénéficier d'un plus grand appart, d'un confort de vie qui va en fait minorer moi, mon apport à moi. Et en fait, mon apport à moi, ma construction à moi, les briques que je mets dans cette société, dans ma vie à moi ou pour mon entourage, en fait, elles sont plus importantes. Et j'ai toujours eu craint l'engagement, le couple, parce que j'ai toujours eu peur en fait que ça diminue ma ténacité. Et en fait, avec des hommes moins riches, ce qui était compliqué, c'est que je voyais, en fait, dans leur... Vous pouvez être l'homme le plus déconstruit du monde. Concrètement, quand votre femme, elle est mieux payée que vous, j'ai senti chez beaucoup, en fait, un manque de confiance en eux. Et ça a souvent eu un impact sur la fin de notre relation. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je suis en pleine forme, que je gagne l'argent, que j'ai un bouquin, que je crée un collectif, que je passe à la télé, au final, je sentais que ça, en fait, ça faisait peur, en fait, à mon conjoint. Et que, du coup, ça pouvait avoir un impact vraiment négatif sur notre couple et que ça le détruisait.
C'est marrant que tu dises que tu as peur qu'une forme de confort douillet endorme ton engagement. Donc, étouffe un peu, en fait, ta colère.
Je me suis souvent posé la question, est-ce que je suis combative parce que j'ai vécu des difficultés, notamment violence familiale, ou est-ce que le feu était déjà là? Et des fois, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, si mon père avait été le médecin qu'il aurait dû être et qu'il n'avait pas eu ces violences chez moi, que ma mère n'avait pas galéré, est-ce que j'aurais eu le feu sacré? Et je me dis, bah non, en fait, j'aurais été une petite conne, j'aurais fait du poney et des concours de saut d'obstacles le week-end, et puis... j'aurais épousé le mec que j'ai rencontré à l'université, enfin à Sciences Po, et puis j'aurais maintenant 3 enfants, un serre-tête, et je serais abonné au club de golf. Et au final, en fait, là, je serais en train maintenant de déprimer. Je serais alcoolique au dernier degré parce que je me ferais chier dans mon foyer. Moi, je vois mes copines qui sont avec des mecs qui ont peur en permanence de quitter leur mec parce que elles se disent, si je quitte mon mec, je vais pas m'en sortir. Ben, au final, elles sont tellement angoissées, elles aussi. Moi, j'ai créé une angoisse qui est celle, en fait, de l'indépendance qui se transforme un peu en solitude pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, cette indépendance, elle a un prix. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais seule pendant le confinement, à vivre seule, à avoir un interlocuteur qui était mon chat, que j'aime beaucoup, mais dont le vocabulaire est un peu limité quand même. Et au final, je me suis dit, oh là là, quand même, Ophélie, t'es allée au bout de ton idée d'indépendance, mais là, quand même, ça a un coût. Eh bien oui, ça a eu un coût, mais en fait, on paye toutes le coût de cette indépendance. Et au final, on accepte d'une femme qu'elle est indépendante quand elle a du fric. Et donc, quand elle a hérité. Et donc, en fait, on crée rien de neuf. Donc, moi, il y a un moment, mon engagement, c'est aussi de dire, je crée quelque chose de neuf, qui a toujours été difficile, et qu'on arrête de nous dire que ça n'a jamais existé. Les béguines, au Moyen-Âge, elles existaient, c'était mis en communauté de femmes, elles étaient ni mariées, ni dans les couvents, et elles se mettaient ensemble en disant, ben, moi, je vais monter ma boîte, j'ai mon activité, et je suis indépendante, mais pour ça, il faut le collectif. Et le collectif, il est féminin.
Ce que j'entends quand même, c'est que le combo indépendance plus militantisme, c'est quand même pas le meilleur moyen de gagner de l'argent, quoi. Quelle place l'argent occupe aujourd'hui dans ta vie ?
Une place beaucoup trop importante. Non pas en fait en tant qu'objet tangible que je toucherai dans mes doigts, mais comme quelque chose qui a été là un peu les montagnes russes pendant quelques années de création d'activité et qui fait que je me pose quand même des questions sur mes projections dans l'avenir. Je me dis que j'aurai jamais assez d'argent pour devenir propriétaire un jour, et je me suis rendu compte du jour au lendemain, après avoir ouvert des squats, que peut-être que c'était quelque chose que j'aimerais faire un jour. Comme quoi, ça s'agit avec le temps. Et puis, c'est aussi quelque chose où je me suis dit plusieurs fois, bon, bah, si ça marche pas, ma structure, je me suis pas dit, coûte que coûte, je vais continuer. Je me suis dit, bon, bah, si ça marche pas, peut-être que je devrais repartir dans un poste salarié parce qu'au final, la vie, il y a déjà trop de combats dans ma vie, hein, entre, voilà, avoir une association, écrire des livres, je fais beaucoup trop d'activités. Est-ce qu'en plus, je dois me taper en plus la charge financière et la charge mentale de créer sa structure? Donc, en fait, l'argent, il est fondamental parce que, en fait, je regarde chaque fois, fin de mois, combien rentre sur mon compte, et je le rajoute dans mon petit tableau, et je me dis, si j'ai tel objectif, si d'ici 6 mois, je suis arrivée à tel objectif, je continue. Et sinon, ben, je repartirai peut-être dans la vie de salarié.
Est-ce que tu crois qu'on reste toujours un ancien riche ou un ancien pauvre, ou dans ton cas, un peu les deux ?
Je pense que la peur de manquer, en fait, c'est quelque chose qui est présent chez moi, et je pense que ça ne me quittera jamais vraiment. Mais en même temps, je pense que c'est un truc qui est savamment organisé par le système dans lequel on vit, hein, qui est un système assez moche, où on entretient la peur de manquer. C'est vrai qu'on vit dans un monde où, en fait, on peut perdre les choses assez facilement. Moi, j'ai estimé que cette double culture, culture bourgeoise d'un côté qui n'avait pas beaucoup d'argent de l'autre, ça a été un apport fondamental dans mon regard politique. Dans tout ce que j'ai fait, ça a irrigué quelque chose qui changeait. C'est-à-dire que, finalement, si vous bossez sur les droits des femmes et que vous n'avez aucune vision sur l'émancipation financière, vous passez à côté de quelque chose. Si vous bossez sur l'autonomie des jeunes, mais que vous n'avez jamais, en fait, vous ne savez pas ce que c'est de manquer, de ne pas manger, parce qu'à un moment, vous n'avez pas les moyens de le faire, vous ne pouvez pas comprendre. Et donc, quand je voyais des gens qui n'avaient pas d'argent, je n'étais pas en train d'oublier ce qui s'était passé. C'est-à-dire que je voyais mes copines, je les voyais en train de compter leurs trucs. En plein moment, on faisait des réunions à Georgette Sand, je voyais mes copines, elles venaient, je les voyais en train de compter leurs sous dans la main quand elles partaient de la réunion parce qu'il fallait qu'elles se payent un billet de métro. Et du coup, moi, j'ai mis en place un truc où on payait les billets de métro de tout le monde pour venir. Parce qu'il y en avait qui n'avaient pas de passe de métro. Et que donc, du coup, ça ne doit pas être une charge, le militantisme. Donc, nous, on a mis en place vraiment un truc à Georgette Sand où, voilà, précaire un jour, précaire toujours, je pars du principe que personne ne doit s'empêcher de militer ou de faire quoi que ce soit dans sa vie parce qu'il n'a pas d'argent. Et donc, si moi, à un moment, je peux être cette personne qui permet à cette personne de s'épanouir sans se soucier de la charge financière de cet engagement-là, eh ben, je vais être cette personne.
Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thunes, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Manuel Dedonder. Si vous aimez Thunes, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thunes à Thunes, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.